Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité d'aujourd'hui numéro 36 a pour titre générique Le doute en tout est salutaire. Dans l'actualité économique générale et coin, la fumisterie de la recherche scientifique officielle s'étale au grand jour via le Parlement européen ces temps-ci, avec le projet ITER. Tout le monde attend, depuis quand même 50 ans déjà, que débouche enfin sur une application la recherche scientifique sur la fusion nucléaire. Toujours promise, toujours repoussée, l'application prototype a été enfin arrêtée avec le projet ITER que la France a réussi à obtenir sur son territoire dans l'espoir de retombées économiques. Les scientifiques, mis au pied du mur, ont bâclé ce projet pour justifier leurs énormes crédits publics. Plusieurs députés européens doutent et questionnent la Commission. Certains ouvrent des yeux ahuris sur les coûts de production et de construction du réacteur de recherche, encore de recherche, ITER, qui aurait augmenté de 300% sur les prévisions initiales. La part du financement de l'UE est passée de 2,7 milliards d'euros à 7,25 milliards d'euros. Et il resterait encore à financer 1,4 milliard d'euros pour 2012-2013. Les ministres du Conseil européen ne sont pas parvenus à s'entendre sur les questions du financement et les États européens n'apporteront pas plus de contributions. La conclusion générale serait donc, fin de la croissance oblige, que le budget d'ITER soit revu à la baisse. Du coup, d'un côté, les politiques se demandent pourquoi on n'imagine pas la possibilité de retrait total du projet ITER, sauf à en arrêter le coût aux environs des 4,5 milliards d'euros actuellement atteints. Pourquoi le Parlement européen n'a-t-il pas été consulté? Les parlementaires doutent de leur utilité et mettent en doute la validité même des affirmations scientifiques. Du coup, les scientifiques ont des raisons de douter qu'ils puissent encore longtemps leurrer les politiques sur la perspective d'une application réelle de la fusion thermonucléaire ultra brûlante à plus de 100 millions de degrés et du coup doutent que les crédits continuent de pleuvoir. Là-dessus, Fillon, au Japon, doutant que les Japonais continuent de croire à la solvabilité française, a tenté d'apaiser leurs craintes, fondées, en promettant l'exercice de la rigueur budgétaire, donc l'augmentation des impôts et la stabilisation, c'est bien le moins, des dépenses publiques. Mais ne doutons pas que les Japonais ont compris la nécessité de saisir encore quelque chose en France pour se payer de leurs créances douteuses. Si toutefois, ils ont encore un doute sur le fait qu'il y aurait encore quelque chose à saisir. Dans l'actualité économique financière Echo 2, deux nouvelles intéressantes sont tombées en ce mois de juillet 2010, dont une ce matin, 27 juillet, en provenance de l'Assemblée nationale, comme toujours après des lois promulguées. 13 lois promulguées le 23 juillet. Première nouvelle. Elles ont chacune pour objet spécifique d'approuver l'accord du gouvernement français avec tel ou tel des paradis fiscaux, entre guillemets, visant soit à éviter les doubles impositions, comme avec le Kenya, ça c'est classique, soit, surtout, à l'échange de renseignements, alors ça, avec les 12 paradis fiscaux, ou réputés tels, Jersey, Guernesey, Île de Man, Île Vierge Britannique, Bahamas, Île Turque et Caïque, Bermudes, Île Caïman, Gibraltar, Saint-Marin, Liechtenstein, Andorre. Aucun des documents matérialisant les accords passés, souvent des lettres croisées, et théoriquement annexés aux lois prises, n'est accessible directement sur le site de Légifrance. On ne connaît donc pas exactement leur contenu. Mais on le devine. Par exemple, gouvernement des Bermudes, dis-moi qui place des capitaux chez toi. Mais enfin, quand on sait qu'il n'y a depuis des décennies, aux Bermudes ou ailleurs, que des prête-noms, du genre descendants noirs, d'esclaves noirs, en train de siroter un Coca-Cola sur les plages des Bahamas et touchant au noir, entre guillemets, 30 000 dollars par an à ne rien faire que signer des documents auxquels elle ne comprend rien, en marquant son nom à lui seul partout, je ne pense pas que le gouvernement depuis Paris aura beaucoup à se mettre sous la dent. Dans toutes ces îles et tous ces ports francs, ces derniers curieusement ignorés, les coupures des pistes sont tellement nombreuses que le doute sera la règle et l'efficacité fiscale française quasi nulle. Surtout que les capitaux peuvent disparaître de là pour aller ailleurs en moins de 2 minutes. Deuxième nouvelle, le doute se généralise en matière financière. Un certain Paul Jorion, un journaliste de Presse Libre, qui a déjà écrit « L'implosion, la finance contre l'économie » chez Fayard, constatation que j'ai moi-même faite et que je vous ai livrée dans cette chronique auparavant, a inspiré un billet d'un monsieur François Leclerc sur 24 heures Gold avec ce titre « Le doute se généralise ». Il souligne « la désorientation des marchés » entre guillemets et la recherche anarchique de solutions alternatives à la crise financière, c'est-à-dire au plafonnement de la création de monnaie crédit par les banques et du même coup au doute qui s'est installé sur la validité des anciennes théories comme celle de Keynes. Il serait temps. Les perspectives de la stabilité économique et donc de la fin de l'argent facile découlant de la croissance, entre guillemets, supposée illimitée il y a 40 ans, perturbent évidemment les profiteurs du système qui s'était consolidé sur ces deux théories, monnaie crédit et croissance. La fin de l'expansion de la première mettant un terme à la seconde et inversement. Le CEBS, Comité of European Banking Supervisors, réunissant les régulateurs des marchés et des banques, se résignerait, précise l'article, à admettre la transparence comme étant la clé du succès dans un monde financier où celle-ci est souvent revendiquée mais rarement rencontrée. 91 banques seraient sur la sellette. En attendant, les résultats des tests d'effort conduits par le CEBS, qui devaient être publiés le 23 juillet, des rumeurs sur des résultats partiels et intermédiaires publiés par le Crédit Suisse récemment, lequel s'est fait plaisir égoïstement, ont ajouté en fait à la confusion générale sans rassurer personne. Les questions qui se posent sont par exemple: les tests officiels européens vont faire foi, mais de quoi? Ou encore, les paramètres européens détaillés des tests ne vont-ils pas être fixés après les résultats finaux des analyses au lieu de l'être avant, afin de claironner des statistiques rassurantes? Des mesures contradictoires sont prises partout dans une espèce de panique larvée. Tout le monde est assommé par cette perspective incroyable de l'arrêt de l'expansion, qui signifie tout simplement que dorénavant, il va falloir payer réellement ce que l'on achète. La stabilité naturelle fait peur au monde financier qui en arrive, comble de l'horreur, à douter de lui-même. Personnellement, je dirais que le doute des financiers ne peut que rendre optimiste l'économie générale. Outre le fait que leur doute, 40 ans après, confirme le mien qu'ils m'ont reproché à l'époque, confirme en même temps ma clairvoyance qui m'a valu l'exclusion de la filière royale qui n'était en fait, et là-dessus il n'y a plus de doute, que la filière satanique. Le monde souffre à cause de leurs prétentions, et tant mieux s'il souffre plus que les autres. Là-dessus, pas de doute. Dans l'actualité économique monétaire Écho 3, deux nouvelles intéressantes encore en matière monétaire apportées à votre connaissance en cette fin juillet 2010. Première nouvelle de ces nouvelles, des pièces d'or russes seraient fausses. La Russie, nous dit 24 heures Gold dans le cadre de ses chroniques de l'or, a été un des plus gros acheteurs d'or depuis le début 2010. Elle en a acheté chaque mois. Je me demande effectivement à quoi ont bien pu servir tous ces achats d'or. Probablement à beaucoup de finalités différentes, surtout composées d'or papier, de swap, de stock monétaire ou industriel. Mais aussi peut-être à une finalité plus douteuse. On apprend en effet que la Banque centrale de Russie se serait engagée, selon une mention rapportée du talk-show de TV Rennes en Russie, a racheté des pièces d'or émises préalablement par elle au type Saint-Georges le Conquérant au prix de 9300 roubles, en dessous du père de 10 000 roubles, pris au poids de l'or pur des pièces. On apprend également que l'International Reserve Payment System, IRPS, présidé par M. Sterligov, vient de décider d'exclure les pièces d'or d'origine russe de son catalogue et de revendre toutes celles achetées pour le compte de ses investisseurs. Cette société vient en effet d'avoir vendu que des pièces de ce type au titre officiel de 999 millièmes de fin auraient rouillé après avoir été enterrées par un particulier sous un chêne. Comme l'or est considéré comme pur à ce titre, et même à 975 pour 1000 seulement, comme nos lingots des années 60 et 70 encore, qui oscillaient entre 975 et 1000, rarement 1000. On sait que physiquement et chimiquement, une pièce d'or à ces titres ne peut jamais rouiller. Donc la suspicion de fraude de la Banque de Russie, laquelle agit comme une coupable en les rachetant aussitôt, semble se renforcer. Méfiez-vous donc au plus haut degré lors d'un achat d'or et exigez toutes les vérifications chimiques et physiques communément reconnues comme probantes. Et faites donc un test avec l'une d'elles en la laissant arrouiller éventuellement aux intempéries ou en terre. Le doute sur la pureté des pièces d'or est ici la mère de toutes les sûretés. Deuxième nouvelle, les euro-billets avoueront leur nationalité en 2011. Une question au Parlement européen du 30 juin dernier en dit long sur la totale incompétence des députés européens en matière monétaire, mais aussi sur la bonne volonté de quelques-uns d'entre eux à servir réellement le bien des peuples. C'est le cas d'un député autrichien du groupe des non-inscrits au Parlement européen, M. Andreas Molzer, lequel vient de déposer le 30 juin une question avec demande de réponse écrite à la Commission. Il ressort de sa question que les billets en euros qui étaient déjà codés de manière à permettre l'identification de leur appartenance à telle ou telle masse monétaire nationale des pays de la zone euro vont avouer leur nationalité ouvertement en 2011. Dorénavant, au lieu d'une lettre anonyme, U pour la France, associée au numéro, ce sera le symbole classique de chacun des pays bien connu du grand public comme FR pour la France. Le député demande pourquoi ce code pays a été introduit alors que cela est évident. Conversion de la masse monétaire nationale en francs, en billets en euros, et de même pour chacun des autres pays. Il demande encore les possibilités de réintroduction de ces billets en euros dans la masse monétaire de chacun des pays, ce qui est encore évident, puisqu'ils ont toujours continué d'y être comptabilisés par chaque banque centrale nationale. Mais il demande aussi quelque chose de pertinent. Quelle garantie pouvez-vous donner aux citoyens concernant la valeur nominale des billets en euros ? Cette question, qui va droit au sujet que je vous ai promis d'aborder prochainement sur la situation agrégée des contreparties monétaires de l'eurosystème, pose effectivement le vrai problème. Là, je lui ai donc écrit pour lui proposer mes services, comme à M. Gollnisch, également non inscrit, après que son groupe ait été détruit par la perverse présidence précédente du Parlement européen, et lui demander la réponse, car je ne la trouve pas encore, que la Commission doit lui faire. J'en suis très curieux. Et vous ? En tout cas, le doute sur l'euro va entraîner la renationalisation ouverte, de facto, des billets en euros. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.